qué fiebre hay.
Bienvenue à l'écoute de votre radio locale à la recherche du groove perdu, session 314. Une émission musicale à géométrie variable diffusée sur RDIWA, Radio Saint-Férol, Radio Dragon, Radio Transparence et sur Radio Saint-Afrique cette semaine. Quatrième volet de la série d'émissions intitulée Histoire de thunes. On parle depuis 3 semaines de cette monnaie qui dirige le monde après les millionnaires, l'argent dans le hip-hop et la dette africaine. On va parler cette semaine d'argent sale, de dirty money, celui des paradis fiscaux, celui des évadés fiscaux, de ceux qui profitent de l'optimisation fiscale pour se dérober à l'impôt. On ne parle pas de quelques millions d'euros comme la fraude aux aides sociales, non, là on parle en 2020, d'après les derniers chiffres connus, de 60 à 80 milliards qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Rien qu'en France, à l'échelle de l'Union européenne, ce serait de l'ordre de 1000 milliards, et ce ne sont pas des chiffres hasardeux. Tout le monde est plus ou moins d'accord sur les ordres de grandeur. Vu les montants, c'est un sujet d'une importance capitale. Ce serait la solution d'essayer d'aller récupérer cet argent pour financer nos services publics, mais c'est plus facile sur le papier, car pour y arriver, il faudrait déjà au préalable qu'il y ait une réelle volonté politique pour s'y atteler, et ça, c'est loin d'être gagné quand on sait le nombre de politiques qui ont des liens avec le monde de la finance ou qui pratiquent, pour certains, l'évasion fiscale. Balkany et Cahuzac ne forment probablement que la partie visible de l'iceberg. On va démarrer par un politique, justement, Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord, qui nous explique la différence entre optimisation et évasion fiscale. C'est parti pour cette émission intitulée Dirty Money.
Eh ben, l'optimisation, elle est légale, et l'évasion, c'est illégal. Mais le résultat est le même. Alors l'optimisation, c'est, c'est abuser de règles fiscales que la loi autorise. Et donc, on a des avocats fiscalistes très brillants, très intelligents, très au fait des règles, qui jouent de cela pour proposer à leurs clients fortunés, aux entreprises, des moyens d'optimisation, des schémas d'optimisation, ça s'appelle comme ça, ce sont des montages. Alors les schémas d'optimisation, l'OCDE en avait répertorié 350 l'an dernier, et cette année on est à 400. Donc ça veut dire que c'est loin de s'arrêter, que ça continue à prospérer. Donc c'est ça, c'est un ministre des Finances anglais, dont j'ai oublié le nom, qui disait un jour « La différence entre l'optimisation et l'évasion, elle est dans l'épaisseur du mur d'une prison ». Voilà, j'aime bien cette formule, elle est un peu brutale, mais il y a un peu de vérité là-dedans. Donc l'optimisation, bah oui, elle est légale, bah dans ce cas-là, il faut changer la loi. Puis l'évasion, bah on la connaît, l'évasion, elle est clandestine.
Oh, c'est beau, hein. Ah, regarde-moi cette couleur. Ah. C'est ni jaune citron, ni jaune safran. C'est jaune morlin, jaune blé. Van Gogh aurait vu ça, il en aurait fait un chef-d'œuvre.
I got a house in the mountains, not long ago. Wanna tell you how I get there, you wanna know. Me and my friend Johnny, taking it slow. Rolling real deep, take it on a down low. Get some info that somebody got though. So I call him up just to let you know. I say, hey Johnny, come over, Johnny boy, let's go. Right away he showed. He came over in an old Jaguar, full with guns like he's ready for war. Really and truly, somebody got dough. I got a lot of guns and shot, don't you know?
Sa carrière, c'est du Mozart.
Chicken at my bell and holster's on with the cannons in, making sure the piece is loaded, giving it the barrel spin. Now that we're locked and loaded, I got the blueprints open. It's time for radio checks and the getaway for stolen. Got some extra ammo strapped around my waist, just in case the cops show up. I try some shooting up the place. The fans are going through the front with the masks on, hoods off, game's on.
Everybody get down, it's a robbery.
In both hands, I got revolver 9mm rolling. I can old school western, cowboy in the movies. I jump over the desk and grab the clerk around the throat and pistol with the motherfucker, cause he said the bank's broke. They pull a bunch of keys out with an old crime through his life for giving out directions to the vote. I grabbed him by the tie, scream, I trust me if you're lying. My mate will blow your head off into pieces till you're wiped in. Me and Johnny Boy, we got the keys of crack and opening. We're open for the millions, it's that to pin the cash ring. Next minute, man, the door swings wide. Put aside for them sore eyes, bare cash piled high. Filling up the bags, faster than the speed of light. Suddenly there's bright flashing lights, alarm bells on the side. So we're quicker and quicker and grab the bags and the trigger. Making the way to the exit, the driver's in a position. The inner sirens getting louder as we get out the building. And then of a couple of shots to get pedestrians moving. The getaway ride reaches up to the side. The antelope's inside, used to hops and a ride, yeah.
Me and Johnny get the money long time.
Money.
2 minutes since we crossed the train line. Me hit the police siren, that's fine. We escape before they blow up the crime. Me hit the bus station and the railway. And next thing Johnny take the highway. And we are done with the money, get paid. The old gangsters know to get away.
Merci.
Qu'est-ce qu'on fait? On planque l'oseille ou on fait demi-tour?
Pourquoi on a rien à se reprocher? C'est de l'argent tout ce qu'il y a dans la tête.
Tu leur expliqueras ça, c'est con.
We got the money, yeah. We got the cash. Old gangsters, look how we trash. We got the money, yeah. You know we stash. Look at the right them, what we a flash. Look how we handsome, look how we act. They girls them just love we like that.
L'entourloupe featuring Scaramucci, Youth Star et Nzeng. Dirty Money, souvenez-vous, mai 2012, François Hollande était élu face à Sarkozy. Le changement, c'était maintenant. Il a nommé en mai 2012 Jérôme Cahuzac, ministre du budget, le ministre chargé de lutter contre la fraude fiscale. Et en décembre de la même année, bim, coup de fusil pour ceux qui croyaient encore en l'intégrité de nos politiques et en la grandeur de la démocratie française, le monsieur fraude fiscale de l'État français est accusé de posséder des fonds non déclarés sur un compte en Suisse puis à Singapour. L'affaire est remontée par Mediapart. Le bonhomme nie dans un premier temps, y compris lorsqu'il est interrogé à l'Assemblée nationale, puis crache le morceau en avril 2013. En mai 2018, Cahuzac est finalement condamné à 2 ans de prison ferme, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. La peine de prison est en réalité transformée en avril 2012 en port de bracelet électronique dans sa résidence de Corse. Avec une peine comme ça, les fraudeurs ont encore de beaux jours devant eux. Rappel de cette belle histoire par le patron Mediapart, Edoui Plenel, qui est interrogé par Euronews en 2013.
Par des journalistes de Mediapart. En décembre dernier, ce site d'information a publié un enregistrement de 4 minutes dans lequel une personne, présentée comme Jérôme Cahuzac, reconnaît disposer d'un compte ouvert dans une banque suisse. Contre vents et marées, Mediapart a maintenu ces informations. Edoui Plenel est le patron de la rédaction de Mediapart. Pour lui, ce qui est le plus grave, ce n'est pas le scandale en lui-même, c'est son impact sur la démocratie française.
Ma conviction, parce que ce qui n'a pas de précédent, c'est le séisme démocratique provoqué par ce scandale. Ce scandale n'est pas le plus grave. Les affaires récentes, Bettencourt, Karachi, Takieddine, Sarkozy, Kadhafi, sont beaucoup plus lourdes, y compris en termes d'instrumentalisation de la justice, de montant des sommes, du trafic d'armes, c'est des choses beaucoup plus grave qui accable l'ancienne majorité conservatrice de droite. Non, là, la nouveauté, c'est le séisme démocratique. Parce que la classe politique, toute tendance confondue, et une partie de la classe médiatique a accompagné Jérôme Cahuzac dans son mensonge. Pendant 3 mois et demi, Mediapart a été seul, alors que les faits étaient sur la table. Les faits révélés par Mediapart dès les 4 et 5 décembre 2012. Et donc, le retour de bâton aujourd'hui, c'est vis-à-vis de ce monde un peu oligarchique entre la politique, l'argent, les médias, qui a accompagné le mensonge de M. Cahuzac, alors que, au fond, pour tout citoyen, on découvre que le chef de l'administration fiscale était lui-même un fraudeur. Et donc tous les Français comprennent que là, il y a un scandale de vertu publique, de morale publique.
C'est un coup dur pour l'image des républicains irréprochables.
C'est un coup dur pour la République, tout simplement. Cela montre que la France est une démocratie de basse intensité. Il y a dans tous nos pays des scandales. Il y a dans tous nos pays, parfois, des hommes politiques corrompus. Une démocratie vivante, c'est celle où non seulement on peut le révéler, mais où dès que c'est révélé, les contre-pouvoirs se mettent en branle, font en sorte que la justice travaille et que la sanction tombe. Dès les premiers jours des révélations de Mediapart, M. Cahuzac aurait dû quitter le gouvernement, ne serait-ce que pour se défendre, il a le droit de se défendre, et ne pas prendre en otage l'ensemble de sa famille politique, du Parlement, du gouvernement, de la majorité actuelle, et ne pas prendre en otage l'État lui-même en utilisant les services de l'État pour se défendre. C'est cela qui a été dramatique dans cette affaire et dont aujourd'hui nous payons le prix et il faudrait répondre par cela, par un grand sursaut démocratique.
Antibalas, Dirty Money de l'argent sale, qui ne pourrait pas être blanchi sans les paradis fiscaux, ces pays ou territoires à fiscalité réduite ou quasi inexistante. On en recense une quarantaine selon les listes dressées. Beaucoup se situent dans les Caraïbes comme Trinidad et Tobago, les îles Vierges américaines, les Bermudes ou les îles Caïmans. Le paradis fiscal le plus connu, colonie britannique située à 240 km au sud de Cuba, 260 au nord-ouest de la Jamaïque. Les îles Caïmans représentent l'archétype des paradis fiscaux, lieu de création de sociétés offshore et de sociétés écrans cultivant le secret bancaire absolu. Il n'existe aucun impôt, quel qu'il soit, sur les revenus, les profits, le capital, la fortune, les plus-values, les propriétés, les ventes ou encore les héritages. Avec près de 600 banques, 80 000 sociétés offshore, la capitale des îles Caïmans, Georgetown, est la cinquième place financière mondiale après Hong Kong, Londres, New York et Tokyo. Ces îles intéressent aussi les trafiquants de drogue. Depuis les années 70, elles sont connues pour être un lieu de placement à long terme de l'argent sale. Le gouvernement anglais, qui est bien sûr au courant de tout ça, pourrait, s'il le souhaitait, faire fermer la place financière des îles Caïmans, mais visiblement, ça n'est pas à l'ordre du jour, comme le suggère ce reportage tourné sur place en 2017. Beaucoup d'entreprises britanniques profitent en effet de ce paradis fiscal. Au programme de cette heure d'investigation, soleil, cocotier, secret bancaire et langue de bois, extrait avec un des pontes du monde de la finance de l'île dans un bâtiment qui abrite près de 20 000 entreprises. C'est parti.
Quasiment à chaque fois qu'on évoque une affaire d'évasion fiscale. Souvenez-vous des Panama Papers, l'affaire qui a fait trembler la planète entière lorsque les noms de célébrités profitant de ces paradis fiscaux ont commencé à fuiter. Les îles Caïmans, ce sont trois petits îlets britanniques perdus dans les eaux chaudes des Antilles, entre la Jamaïque et Cuba, 262 km² seulement, et pourtant elles comptent parmi les plus importantes places financières du monde. Les plus grandes banques y possèdent des filiales ou en ont possédé il y a peu de temps encore, et notre pays n'échappe pas à la règle. Ces établissements n'embauchent pourtant aucun salarié sur place, et des montages financiers leur permettent de générer d'importants bénéfices grâce à la souplesse dont ce territoire peut faire preuve en matière de fiscalité. Des sommes vertigineuses qui auraient dû atterrir dans les caisses publiques. Le journaliste anglais Jacques Peretti a tenté d'en savoir plus en se rendant sur place pour comprendre de l'intérieur ce système qui permet de contourner la loi. Découvrons le paradis des milliardaires au cœur des îles Caïmans.
Alors que l'île peine à accueillir ses 10 000 touristes, comment est-ce qu'un seul bâtiment peut abriter 20 000 entreprises ? C'est ce que je vais découvrir. Bonjour. Je me demandais si je pouvais entrer.
Désolé, mais c'est une propriété privée ici. Les caméras sont interdites.
D'accord. Mais pourquoi ? À qui appartient l'immeuble ? Il y a environ 20 000 entreprises ici, non ?
Oui.
Est-ce qu'il y a bien quelqu'un ici à qui je peux m'adresser ?
Éteignez la caméra, s'il vous plaît.
Visiblement, ce vigile, bien que très poli, ne me laissera pas entrer. Il y a près de 20 000 entreprises enregistrées dans cet immeuble, et je peux vous dire qu'en regardant par la fenêtre, j'ai vu beaucoup de bureaux. Mais il n'y a absolument personne derrière. Pourtant, il y a bien des gens qui travaillent à Oakland House, les avocats qui prennent soin de ces entreprises. Je m'apprête à rencontrer quelqu'un qui pourra m'expliquer comment un seul immeuble peut renfermer plusieurs millions d'euros. Il ne s'adresse jamais aux médias, mais l'une des personnes influentes de la finance des îles Caïmans a accepté de me rencontrer. Jude Scott est l'ancien PDG du cabinet juridique d'Oakland House.
Bonjour Jacques, bienvenue.
Il est désormais le porte-parole de l'industrie des finances de l'île. Qu'est-ce que font toutes ces entreprises britanniques enregistrées aux îles Caïmans ?
Eh bien, cela dépend de chaque entreprise. Mais par exemple, certaines d'entre elles peuvent chercher à se développer et tentent donc de lever des fonds. Certaines sociétés essaient d'élargir leurs opportunités d'investissement.
Êtes-vous vraiment en train de me dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'évitement fiscal ?
Ce que je vous dis, c'est que cela dépend vraiment de l'organisation. Elles ont toutes une raison différente de venir aux îles Caïmans. Les îles Caïmans ont vraiment la réputation d'être le paradis de l'évasion fiscale. Barack Obama pointe particulièrement du doigt votre île.
C'est très intéressant parce qu'il y a des immeubles aux États-Unis, notamment dans le Delaware, qui abritent 110 000 sociétés.
Le Delaware est un concurrent. Il y a beaucoup de paradis fiscaux sur Terre, pas uniquement les îles Caïmans. Vous pensez que ces commentaires sont une stratégie politique ?
Très souvent, ils ont une motivation politique, en effet.
Les îles Caïmans font souvent l'objet de critiques. Elles font concurrence aux autres paradis fiscaux. Avec une meilleure réputation, elles espèrent avoir un avantage sur leurs rivales. Je sais que les personnes qui vont regarder ce reportage vont être furieuses contre toutes ces entreprises et leur système.
À une époque, la véritable question était « Est-ce que les entreprises ont recours à l'évitement fiscal ?» C'était le cas ou non. Soit c'était légal, soit ça ne l'était pas. Mais aujourd'hui, la question est devenue « C'est peut-être légal, mais est-ce patriotique ?» Et c'est là que c'est devenu une question épineuse.
People preaching the money is bad, but let me tell you that them case is sad. Because I claim that money is king and can get you almost anything. Money is king, money is king. It can get you almost anything. When up your lady, you are not sure. Money can open the bedroom door. Look what happened to Paddy Star. When him lose him pretty motor car, him say that him ya lock the bedroom door and him have to stay outside and snore. Money is king, money is king. It can get you almost anything. When up your lady you are not sure. Money can buy nice girls galore. Sonny Sal, Sonny, Sonny Bunch, and was always willing at the bed lunch. But since he's in a financial plight, he's always saying, no, not tonight. Money is king, money is king. It can get you almost anything. When up your lady, you are not sure. Money can open the bedroom door.
C'était Bédas, chanteur jamaïcain. C'était du Mento avec le morceau Money is King. Pas besoin d'aller dans les Caraïbes pour trouver des paradis fiscaux. On en trouve pas loin de chez nous et pas des moindres comme Monaco, Andorre, l'Irlande, Malte, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Suisse, bien sûr, ou encore les Pays-Bas. Par contre, tous ces pays ne figurent bien évidemment pas sur la liste noire des paradis fiscaux de l'OCDE. L'Union européenne préfère fustiger les îles Fidji et Trinidad et Tobago plutôt que de balayer devant sa porte et de pointer du doigt les pays membres ou les voisins comme la Suisse. Petite explication sur ces paradis fiscaux européens et l'hypocrisie de l'Union européenne sur le sujet. C'est tiré du journal de l'Écho de la RTBF, la chaîne belge, qui date de mars 2019, c'est parti. L'Union européenne s'apprête à revoir la liste des pays considérés comme des paradis fiscaux. Selon un rapport de l'ONG Oxfam publié ce matin, 9 paradis fiscaux notoires risquent de sortir des radars de l'Europe.
Exemple, les Bahamas, les Bermudes, les îles Caïmans ou encore Panama. Et certains de ces pays ont pourtant été au centre de scandales fiscaux mis en lumière par les Paradise Papers ou les Panama Papers. Explication de cette situation, Johan Langerock, expert fiscalité chez Oxfam.
Les critères appliqués par l'Union européenne sont trop faibles pour vraiment aller chercher les paradis fiscaux notoires, nocifs et dommageables à nous tous. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas aller voir ces pays d'un point de vue légal, il faut aller voir ces pays d'un point de vue économique. Si on voit que ces pays fonctionnent encore comme des paradis fiscaux dans la réalité, il faut les garder sur la liste grise ou sur la liste noire.
Car ces pays, dit Oxfam, ont fait évoluer, c'est vrai, leurs textes législatifs pour qu'ils correspondent aux attentes de l'Union européenne. Mais en pratique, sur le terrain, au jour le jour, ils fonctionnent toujours comme des paradis fiscaux.
Oui, là, ce sont des paradis fiscaux un peu exotiques. Et chez nous, en Europe, Michel, qu'en est-il ?
Oxfam demande effectivement à l'Union européenne de balayer devant sa propre porte. C'est bien de chercher à imposer des normes fiscales exigeantes à l'extérieur, mais ce serait bien aussi de les mettre en œuvre chez soi.
On a identifié 18 États membres, dont la Belgique, où il y a des pratiques fiscales dommageables. Et en plus, on a fait une analyse économique des États membres de l'Union européenne. On a vu que 5 États membres en particulier sont très très nocifs envers les autres États membres en termes d'évasion fiscale, mais aussi dans le monde entier.
Irlande, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Chypre, ce sont des pays européens accusés par Oxfam d'avoir une stratégie fiscale qui permet à de nombreuses multinationales de payer très très peu d'impôts. Parmi les mécanismes utilisés, ce qu'on appelle les « pattern box ».
Les patent box, c'est un avantage fiscal qu'on donne à des profits qui sont liés à de la propriété intellectuelle. Surtout, les grandes entreprises pharmaceutiques peuvent utiliser ces avantages-là pour faire en sorte qu'ils payent des taux d'imposition qui sont parfois plus faibles que 5% et en Irlande, allant plus bas que 2%.
Et la Belgique, Michel, c'est apparemment pas vraiment un paradis fiscal pour les entreprises, mais c'est pas non plus un pays réprochable.
Alvenalve, comme on dit chez nous. Pour Oxfam, la Belgique est un paradis fiscal avéré pour certaines multinationales et pour certains profits. Pas pour tout le monde donc. Un paradis fiscal sélectif en quelque sorte. Reste deux cas hors de l'Union européenne, les États-Unis et la Suisse. À leur propos, l'analyse d'Oxfam est cinglante.
Les États-Unis ne respectent pas les critères de l'Union européenne, clair et net, mais ne seront pas listés par l'Union européenne parce que politiquement c'est impossible selon les États membres. Donc là on voit que la liste n'est pas si objective que ça. Et la Suisse, c'est le même cas de figure. La Suisse n'a pas réformé ses lois comme demandé par l'Union européenne, mais ne sera pas sur la liste noire parce que politiquement aussi là on voit des problèmes pour mettre la Suisse sur la liste noire.
Pour les États-Unis concrètement, ce qui pose problème, c'est la transparence insuffisante selon Oxfam. On le voit bien avec un État qui est considéré comme un paradis fiscal, le Delaware. Et puis pour la Suisse, ce sont plutôt les pratiques fiscales dommageables. Ce sont des pratiques qui privent en réalité d'autres États de ressources fiscales dont ces États auraient probablement bien besoin.
Big cheese! Get la pa! Come on, smile!
Mes brass band, give me my money back. À la recherche du groove perdu, session 315 cette semaine, quatrième volet de la série d'émissions intitulée Histoire de thunes. On parle depuis une demi-heure de paradis fiscal, d'optimisation ou encore d'évasion fiscale, des gros mots tabous et des mécanismes complexes, mais ça vaut le coup de s'y pencher un peu. On a fait un petit tour du côté des îles Caïmans, en Europe aussi, qui compte parmi les plus gros paradis fiscaux. Mais où est le problème, puisque tout ça est légal, en tout cas pour ce qui est de l'optimisation fiscale? Eh bien, le problème majeur, et non des moindres, c'est que ces paradis fiscaux favorisent le contournement de l'impôt par la fraude et l'évasion fiscale. Ils sapent cette discipline fondamentale des sociétés civilisées, qui veut que chacun contribue au financement des politiques publiques et d'intérêt général, notamment ceux qui en ont les moyens, comme les multinationales qui font du business dans les pays concernés et qui ne payent quasiment pas d'impôts, comme Google, Amazon, pour ne citer que celles-là. Avec ces pratiques, les capacités de régulation et de redistribution des États sont faibles et fragilisées, et le pauvre doit supporter une part supplémentaire du poids de l'impôt. Et quand on se penche sur ses conséquences dans les États les plus pauvres, l'impact est encore plus fort sur les populations. On observe dans ces pays une véritable hémorragie fiscale qui constitue un obstacle majeur à leur développement. C'est ce que nous explique ce monsieur Renaud Fossard dans ce Data Gueule numéro 59 consacré à l'évasion fiscale. On écoutera ensuite Papa Ito, El Pobre y El Dinero.
Renaud Fossard, chargé de mission justice fiscale dans le réseau latino-américain Latindad. L'évasion fiscale pour les pays en développement est massive. Tout simplement parce que les pays en développement ont des besoins criants de développement, c'est-à-dire de pouvoir investir dans les politiques publiques et donc de pouvoir avoir des leviers budgétaires dans leur économie. Or, le principe d'un pays en développement, c'est d'avoir une économie restreinte. Si dans ce cadre-là, les multinationales, qui sont généralement basées au nord, viennent, exploitent le pays, en tirent les matières premières et s'en vont sans payer d'impôts, on a un gouvernement avec des besoins criants qui ne peut même pas financer donc ses routes, ses hôpitaux et ses écoles. En France, on parle de 60 à 80 milliards d'évasion fiscale par an. Le trou de la sécu, c'est 10 milliards. Donc on n'est pas dans du 200 millions de fraude à la CAF. On est dans des très très gros montants, et ça, c'est la France. Donc quand on va dans des pays en développement, tout part aux extrêmes. Il y a plus d'évasion, il y a plus de besoins. Le grand écart devient intenable et on a des pays qui ne s'en sortent pas. Ce qu'ont fait les pays du Nord depuis quelques années, c'est resserrer l'étau du système fiscal international qui est cassé dans son fondement. Le système fiscal international permet aux multinationales de ne pas exister en tant que multinationales, mais seulement en tant qu'addition de filiales. Les multinationales savent jouer avec ça et au final faire disparaître les profits de là où ils sont générés pour qu'ils apparaissent ailleurs. Les pays du Nord ont des vraies capacités pour contrôler les multinationales et donc elles luttent, elles font des combats d'ingéniosité avec les unités d'optimisation fiscale des multinationales. Donc quelque part, les États du Nord retrouvent un petit peu d'argent sans retrouver néanmoins ce qu'ils devraient. Par contre, les États du Sud sont totalement démunis parce qu'ils ne peuvent pas jouer à ce jeu d'ingéniosité. Ils ont moins de personnes dans leur administration fiscale qu'une grande multinationale dans son unité d'optimisation. Ce que font les pays du Nord à l'heure actuelle, c'est tout faire pour éviter que ce système change et donc rester dans le système cassé et essayer de l'améliorer un tout petit peu. L'intérêt des pays du Nord dans ce jeu-là est de continuer à taxer eux-mêmes les multinationales qui ne payent pas leurs impôts dans les pays du Sud. C'est-à-dire que je suis le gouvernement français, je préfère que ma multinationale qui travaille au Pérou et en Bolivie paye peu d'impôts là-bas, que les profits remontent un petit peu au siège et moi, gouvernement français, je peux enfin un petit peu le taxer. Si jamais demain les pays du Sud peuvent taxer comme il se doit à leur juste valeur les multinationales, il y aura évidemment une assiette fiscale beaucoup plus réduite au niveau du siège. Les sièges étant dans les capitales européennes et américaines. C'était très frappant à Addis Abeba au sommet pour le financement du développement. Les pays en développement, les pays émergents, Brésil, Inde, Chine, l'ensemble de l'Amérique latine, l'Union africaine, ont demandé qu'aux Nations Unies soit installé un corps de fiscalité internationale, intergouvernementale, pour définir les règles internationales. C'est-à-dire que les règles ne soient plus définies à l'OCDE, 34 pays développés et riches, mais soient définies aux Nations Unies, 193 pays. Jusqu'au dernier moment, des pays, en particulier les États-Unis et l'Europe, ont bloqué cette demande des pays en développement. Le mandat politique reste entièrement attribué à l'OCDE. Il est refusé aux Nations Unies. Les Nations Unies ne peuvent définir les règles de fiscalité internationale. Elles peuvent seulement en faire de l'analyse.
Razón en mi existir, cansancio de tanto laborar, no hay una razón para vivir así tan mal. El sabio que es pobre nada sabe, porque nada tiene y nada vale. Yo no sé por qué el dinero llega tanto al ser humano, que por él hasta su propio hermano a veces no te sincero. Ese meta traicionero que vino al mundo de maldad, en la negra realidad, que es culpable del quebranto, por lo cual se sufre tanto en esta falsa sociedad. Que dure la vida para el pobre, hay quien la derroche en su ambición, rezándole tal de virgen del pobre, buscando su perdón.
¡Qué falsedad! Esa es la vida del pobre y el codiciado dinero.
Esa es la vida del pobre y el codiciado dinero. Yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás, y ahora como no tengo, me llaman Tomás nada más. ¡Qué humanidad!
Papaito, El Pobre y El Dinero. On continue de parler d'évasion fiscale et d'optimisation avec un spécialiste chopé sur le net, The Big Boss en la matière sur YouTube. J'ai nommé Maxence Rigottier, un jeune homme de 30 ans, un winner qui en a eu marre de payer ses impôts en France et s'est cassé en Estonie, un autre paradis fiscal européen. Il fustige la France et tout particulièrement sa dette. Selon ses dires, la France s'endetterait de 2 665 € par seconde. Et bien lui, il a tout compris. Plutôt que de résorber cette dette en payant ses impôts, et bien il pratique l'évasion fiscale. Un raisonnement d'une logique implacable et un grand patriote qui nous explique pendant une demi-heure comment créer une société offshore. Première étape, bien choisir le lieu de l'évasion fiscale. C'est parti, à toutes.
Donc, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Tallinn en Estonie. Dans cette vidéo, on va parler de comment créer une société offshore dans l'objectif d'optimiser son imposition. Donc avant qu'on commence cette vidéo, clique bien sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos et lis bien la barre de la description puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret. Donc je te laisse regarder ça tout de suite dans la barre de la description. Donc Maxence, salut.
Salut Raph, avec grand plaisir de faire la vidéo avec toi.
Bah, merci à toi. On va parler aujourd'hui avec Maxence de comment créer une société offshore. Donc Maxence, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, etc.
Absolument. Donc, je m'appelle Maxence Rigottier, je suis né le 8 août 1989 et également, voilà, j'ai démarré différents business en ligne en paris sportif, donc le 1er février 2011 et le web marketing depuis janvier 2015. Et j'ai fait aussi donc un site web, une chaîne YouTube sur la course à pied entre les deux également. Donc ça, c'est mes deux business principaux, paris sportif, web marketing. J'ai également eu différentes, que j'ai encore aujourd'hui, sociétés à l'étranger. Mm-hmm. Et j'en suis arrivé, en fait, pourquoi j'ai optimisé ma fiscalité, c'est que je pense que si vous regardez cette vidéo, vous allez être d'accord avec moi, vous êtes tout le temps défoncé en France, impôts, taxes, charges sociales, RSI, etc. Et du coup, en fait, ce qui m'a, voilà, ça m'avait vraiment mis des gouttes de sueur sur le visage.
Quand tu as vu ce que tu allais payer.
C'est quand je me suis dit, ok, on fait 100 000 euros de vente sur Internet, il te reste grand maximum, si tu es un king de l'optimisation, 40 000 euros in the pocket. Ouais. Hein, généralement, ça en est encore moins. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, ah ouais, je me bouge le cul, j'ai des responsabilités, il me reste que ça dans la poche. Et ensuite, autre constat et que je vous invite, vous pouvez aller jeter un œil, vous tapez dettepublique.fr et vous allez voir un chiffre. On peut même plus le lire.
Il est tellement grand, il ne tient pas dans l'écran le truc.
Il ne tient même plus.
Il faut scroller.
La France s'endette de 2 665 euros par seconde. Donc, vous avez bien entendu, 2 665 euros par seconde. Donc, rien que le temps de la vidéo, elle sera endettée plusieurs centaines de milliers d'euros.
C'est incroyable.
C'est un truc de malade.
Donc, tu t'es dit, j'en ai marre de bosser jusqu'à septembre pour l'État en payant des impôts. Tu t'es dit, il faut optimiser tout ça.
Et exactement.
Donc, tu t'es dit, je vais créer une petite société offshore. Donc, on ne va pas parler dans tous les grands détails parce que voilà, ça peut être long de pourquoi créer une société offshore, dans quel but, où aller, etc., etc. Mais on va plutôt vous parler du process, de comment ça se passe.
Voilà, les différentes étapes de A à Z, comme ça, ça vous permettra de le mettre en place également.
C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a envie de créer une société offshore qui sont propres à chacun. Mais du coup, aujourd'hui, Maxence, quelle serait selon toi la première étape pour créer une société offshore? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, par quoi il doit commencer?
Absolument. Donc, étape numéro 1, donc choisir le pays de résidence fiscale.
Okay.
Alors, qu'est-ce que je veux dire par résidence fiscale? C'est vous concentrer sur des pays, donc soit qui ne vont pas donc taxer les revenus générés à l'étranger. Donc, je pense notamment Malte, Thaïlande. J'avais fait une petite liste, Singapour, Andorre, etc. Donc, les revenus donc offshore, donc générés à l'étranger, ne sont pas taxés. Ou s'ils sont taxés, soit taxé le plus faible possible.
Il n'y a qu'un seul chiffre, quoi.
Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Parce que dès qu'on commence à voir deux chiffres,
ça sent pas bon.
Là, ça sent pas bon. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, moi, mon conseil par rapport à ça, parce que souvent, on me pose la question, ouais, mais où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois aller en Amérique latine? Ouais. Est-ce que je dois aller à Malte? Est-ce que je dois aller en Asie ou ainsi de suite? C'est donc de regarder, du moins d'y aller au moins une fois en vacances, 10, 15 jours, pour vous savoir si vous sentez bien. Parce que s'expatrier, c'est quand même quelque chose d'important dans sa vie. Donc, du coup, si vous voulez aller dans un endroit, mais que le pays, vraiment, il vous casse les couilles,
c'est clair
que ça ne va pas être royal, même si vous optimisez votre fiscalité. Donc, mes points numéro un à avoir en tête, donc résidence fiscale, donc choisir son pays de résidence pour pouvoir optimiser sa fiscalité.
Money Man, je suis sûr que vous avez apprécié l'extrait vidéo précédent. Du coup, on va finir en beauté avec le même bonhomme, Maxime Rigaudy, accompagné cette fois d'un autre évadé fiscal décomplexé. J'ai nommé Tammy Cabage, qu'on dirait tout droit sorti de la vérité si je mens, un ancien trader reconverti dans le coaching fiscal. Le thème de cette nouvelle vidéo est encore d'intérêt général puisqu'il est question de savoir s'il vaut mieux choisir l'Estonie ou Dubaï pour son évasion fiscale. Clash entre deux titans de la haute voltige sur le fil du web, on dirait presque un sketch de Rire et Chanson.
Dubaï,
c'est parti.
Ou Estonie, bah, c'est ce qu'on va voir en étant lancé la vidéo. Donc je suis avec Tammy.
Yes,
Tammy,
yes. Comment vas-tu?
Moi, ça me fait super plaisir de passer avec toi, mais on va. Hey, déjà, c'est Dubaï. Hein. C'est pas Estonie.
On va voir. Yes. Ça va être chaud, ça va être chaud.
Bon, donc du coup, on a pas mal rigolé hier avec Tammy et je me suis dit, ça serait bien de faire un petit récapitulatif comme ça, ça va vous permettre de savoir, en fonction de tous les détails que je vais évoquer, est-ce que vous, c'est plutôt Dubaï ou Estonie que vous aimeriez vis-à-vis d'une expatriation. Alors, première chose, souvent dans les expatriations, il faut regarder la création d'une société.
Oui.
Et là, l'Estonie, c'est un truc de dingue.
Ouais.
C'est paiement de 190 euros une fois et la société, les multifonctions, vous pouvez aussi bien investir dans l'immobilier, bourse, business internet, crypto-monnaie, bref, le all inclusive.
Excellent, ouais.
Vis-à-vis de Dubaï, parce que souvent on pose la question
bien
également.
Sûr, bien sûr.
C'est à peu près combien création de la société, tous les différents documents quelle est la fourchette?
Écoute, franchement, ça m'a coûté beaucoup plus cher, mais c'est du 5-10 000 euros minimum.
Entre 5
oui,
à 10 cas.
10 cas. Et si tu as besoin d'avoir des locaux, par exemple, moi, j'ai besoin d'avoir des locaux, tu dois les louer ou alors tu dois les acheter. Par exemple, moi, j'ai acheté mon bureau. Et donc, ça peut te coûter assez cher. Par exemple, ma première année à Dubaï, j'ai frôlé les 100 cas. Donc, ma première
100
année. 100 cas? Oui. C'était en 2014. Maintenant, encore une fois, je pense que. Il faut parler de ça, mais il faut parler également de pourquoi j'y suis allé. Et ouais. Pour moi, encore une fois, c'était une question de climat, d'ambiance, de dynamique. Et c'est vrai que moi, j'ai habité à Paris pendant pas mal d'années. J'ai frôlé la mort en 2010, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je suis tombé sur le crâne, burn-out et compagnie. Et là, voilà, ça a été pour moi effectivement un déclic. Et je ne voulais plus habiter à Paris. Pour moi, la grisaille. Donc, j'ai été à Dubaï. Et pourquoi j'ai aimé Dubaï? Parce qu'il y a le soleil toute l'année. Nous, on habite aujourd'hui aux Palmes. On a une plage privée, on a vraiment des conditions idylliques. Et ça, c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas vivre dans un pays froid parce que j'adore le soleil. Maintenant, encore une fois, voilà, j'adore, on est à Berlin, j'adore, mais je voyage. Mais le lifestyle que je voulais, c'était Dubaï.
Et alors vous, votre lifestyle, c'est Dubaï ou Estonie? Bien tentant tout ça, voilà pour cette émission intitulée Dirty Money où il était question de paradis fiscal, d'optimisation et d'évasion fiscale. On va se quitter avec ce chiffre que j'ai déjà cité mais qui donne le tournis, 1000 milliards d'euros qui ne rentrent pas chaque année dans les caisses des pays de l'Union Européenne à cause de tout ça. Rien que pour la France, c'est 80 milliards. Avec ça, fini l'austérité budgétaire, fini les coupes dans les services publics, on peut toujours rêver. Il nous reste au moins ça, c'était la recherche du groove perdu. La semaine prochaine, dernier volet des histoires de thunes avec une sélection 100% reggae qui aurait pu contenir ce dernier morceau du jour. Money Dub, signé King Toby. On se quitte là-dessus. Bye.